CFM, le MAG, la vie du pays Midi-Quercy.
Le MAG du pays Midi-Quercy, une émission soutenue par le programme européen Leader et réalisée à CFM Caylus. Le MAG du pays Midi-Quercy, bonjour à tous et merci d'être avec nous en ce lundi 13 janvier. Je reçois le président du PETR. Bonjour Christian Maffre.
Bonjour Lisa.
Ici pour nous présenter ses voeux déjà et pour faire un petit bilan de ses 6 ans de mandat de président. Comment ça va?
Très bien. Très bien, maintenant je suis à quelques semaines de ma retraite, donc ça va pas mieux, mais ça va bien.
Bah, ça va mieux qu'au début alors.
Ça va mieux qu'au début, voilà, je suis plus, je sais pas si je... En fait, j'ai moins le trac, peut-être à la radio. voilà, donc écoute, déjà merci de m'accueillir dans ces studios que je commence maintenant à connaître un petit peu quand même. Donc, comme le veut la tradition, eh bien, il est logique que je vienne souhaiter au nom du PETR les vœux aux 50 000 et un peu plus d'habitants qui composent le nord-est du Tarn-et-Garonne. Donc, si tous ces habitants-là ne connaissent pas forcément très bien le PETR, en tout cas, qu'ils soient persuadés que le PETR a travaillé pour eux, continuera à travailler pour eux. Et je leur souhaite, évidemment, tous mes voeux de bonheur, santé, joie, réussite dans toutes leurs entreprises, qu'elles soient privées, publiques, philosophiques, etc., etc. Voilà, le meilleur pour toute notre population, pour tous ceux qui travaillent et qui vivent sur ce territoire.
Eh ben, vous le faites bien. C'était des très jolis vœux, je trouve. En 6 ans de travail, Christian Maffre, comme président, vous avez vu un certain nombre de projets défiler dans plein de thématiques différentes pour lesquelles vous travaillez tous les jours, votre équipe de salariés et vous-même.
Oui, alors c'est une constante. Le PETR est une structure qui travaille pour son territoire. Il y a certainement plein d'actions que tout le monde connaît, mais qui ne sont pas forcément rattachées ou rattachables au PETR. Donc je vais essayer brièvement de rappeler un petit peu ce que fait le PETR, ce qu'il a fait pendant 6 ans, ce qu'il va continuer à faire. Mmh. Et on travaille bien sûr en matière d'énergie, de climat, c'est quelque chose qui est récurrent chez nous depuis la naissance du pays et ensuite du PETR. Donc au niveau du climat, on a mis au cours de ces 6 années, au cours des 2 dernières années, ce qu'on appelle un plan climat air énergie territoire, donc pour évaluer les besoins énergétiques et pour voir quelle était notre consommation à l'échelle 2030 et 2040, 2050. Voilà. Donc ça, c'est un document qui a été réalisé par le PETR pour le compte des communautés de communes. Donc il est réalisé, il est fait. On s'était engagé au début de notre mandature à travailler sur un SCOT. Donc on a mis un certain temps aussi, mais là il est en cours.
Schéma de cohérence territoriale.
Voilà, pardonnez-moi. Un SCOT, un schéma effectivement de cohérence territoriale. Donc on est en plein... On a pris beaucoup de retard là aussi, mais on est en plein travaux. Et ce SCOT fera encore l'objet de discussions et de travaux pendant 1 ou 2 années. Il faut... Voilà... Alors ça, c'était un des gros projets qui avait été prévu dans cette mandature, accompagné de notre gros projet qui est une labellisation au Pays d'Art et d'Histoire. Là aussi, pareil, on a pris du retard, mais la labellisation, je pense, va être possible au cours de cette année 2020, au pire, dans le pire des cas, début 2021. Voilà, je reviens là-dessus parce que c'était vraiment 2 actions qui me tenaient à cœur. Non, peut-être pas de les finir dans ma mandature, mais au moins de les mettre sur les rails de façon à ce que, voilà, on puisse dire, voilà, j'ai commencé, je travaille, ça va être réalisé. Je crois vraiment au Pays d'Art et d'Histoire parce que c'est une façon d'impliquer tous les habitants de notre territoire, à mieux connaître ce territoire, à transmettre, à dire que, voilà, on a la chance de vivre dans un territoire qui est authentique, qui est divers. Mais voilà, il faut transmettre les choses. Et pour les transmettre, il faut les connaître. Donc, toute l'équipe du PETR, ou les équipes du PETR, présentes et futures, travaillent à ce que tous les habitants du territoire s'accaparent ce qui est à eux. Après tout, c'est jamais que normal. Donc voilà, ça, c'est le pays d'arrêt d'histoire, c'est aussi important. Donc on a eu de nombreuses actions, comme je le disais, dans l'énergie-climat. On vient d'être labellisé CTE, contrat de transition écologique. C'est l'application du plan climat-air-énergie. C'est-à-dire que là, on a pu identifier des objectifs qui étaient déjà décrits dans le plan climat et on met en place des outils pour, de façon à pouvoir évaluer une politique.
Alors, du coup, c'est sous l'égide de l'État qui vous félicite d'ailleurs parce que je crois que vous êtes le deuxième territoire en France.
On était le deuxième territoire national et le premier d'Occitanie, effectivement, à signer ce contrat de transition écologique.
Il faut le dire quand même.
Oui, il faut le dire. Mais bon, là, c'est pareil. C'est jamais qu'une suite logique. Donc, il n'y a rien de...
Ou la suite du travail qui a déjà été fait.
Voilà, c'est normal. Donc, oui, je disais, on a mis en place toujours dans le cadre de cette de l'énergie et du climat. On a aussi contribué, le PETR, à la naissance d'une SIC, une société coopérative d'intérêt commercial.
Collectif,
pardon. Oh. Excusez-moi. Je ne sais pas. Non. Oui, collectif. Nos clients, entre guillemets, ou les gens avec qui nous travaillons, sont soit des publics, soit des privés. Donc on va s'occuper de mettre sur leurs équipements traditionnels, c'est-à-dire sur une toiture traditionnelle, un équipement photovoltaïque. On va leur louer leur équipement, leur toiture. Pendant X temps, une période de à peu près une vingtaine d'années, on va leur louer. Et après, si vous voulez, parce que nous, on a des conventions avec nos partenaires qui sont d'environ 20 ans, hein, si c'est Enedis ou autre, enfin, les gens qui sont obligés de racheter l'électricité. Et ensuite, bien, soit le propriétaire continue avec nous, soit il récupère son équipement et il annuse comme il le souhaite.
Et les particuliers étaient appelés à prendre des parts dans cette société coopérative.
Voilà, et alors ça c'est la deuxième, ça c'était, peut-être je disais, c'était le premier volet technique et commercial. Le deuxième volet, c'est surtout un volet citoyen, c'est-à-dire c'est pour inciter chacun d'entre nous à dire, voilà, à avoir une action concrète pour la production d'énergie. C'est-à-dire qu'on met à disposition de cette SIC une toiture, mais on participe à diminuer, par cette action, à diminuer l'enveloppe globale budgétaire dédiée à l'achat de fournitures sur notre territoire. C'est-à-dire qu'on a une action individuelle concrète pour l'ensemble de nos concitoyens.
Et on peut prendre des parts sans forcément
et on
vous
peut
proposer
prendre des
votre, notre voiture.
Voilà, et ensuite on peut qu'on rémunère aussi. Donc même on est peut-être aussi intéressant que certaines structures privées. Donc voilà, on essaye d'être facilitateur, intégrateur, bref, d'avoir une politique citoyenne. Voilà, donc toujours sur le volet énergie-climat, on a mis en place aussi, depuis maintenant un certain nombre d'années, les CEP, les conseils en énergie partagée. Ça s'adresse aux collectivités, c'est-à-dire qu'on a une ressource humaine dédiée, spécialisée, pour aider les collectivités dans la gestion de leur énergie.
Faire des bilans, des diagnostics, et proposer à les recherches
voilà.
Des aides.
J'oublie peut-être des choses sur le volet énergie-climat, mais voilà, sachez qu'on est très engagé dans cette voie. On l'a été avant, peut-être certains, et on a vu aussi que ceux qui avaient pris ces décisions à une époque avaient fait le bon choix. Donc tout ce qu'il faudra faire, c'est continuer. De toute façon, maintenant, plus personne ne remet en cause les éléments climatiques ou autres. On sait qu'il faudra continuer à faire des efforts et que ces efforts seront couronnés de succès si tout le monde les a bien compris et si tout le monde amène sa petite pierre. Au niveau urbanisme et environnement, donc urbanisme, je dirais qu'on est, on met en place des OPH, des opérations programmées d'amélioration de l'habitat, depuis un certain nombre d'années. La dernière, c'était 2011 jusqu'en 2018. On a recommencé en 2019. Donc voilà, là aussi, on a permis la réalisation de plus de 20 millions d'euros de travaux pour la réhabilitation de bâtiments hein, dédiés à l'habitat. Et tout cela, quand même, en partenariat, évidemment, hein, avec l'État, le département, la région, etc. Tout cela, je disais, oui, 20 millions d'euros d'habitants, 20 millions d'euros de travaux, pardon, et un financement, une aide supérieure à 50%. Donc c'était quand même c'est quelque chose de très intéressant. Mais c'est absolument nécessaire parce que on a un habitat qui est quand même très dégradé sur le territoire. Et dans les années à venir, si vous voulez, toutes les formes d'habitat traditionnels qui vont venir grignoter de l'espace agricoles, rurales, seront très, contraintes. Et donc, il faut vraiment se réapproprier de l'habitat ancien qui peut, à partir du moment où on le réhabilite dans de bonnes conditions, il peut être un habitat tout à fait conforme, quoi, aux règlements, aux règles et aux habitudes actuelles. Donc, voilà. Et puis aussi, il y a des gens qui habitent encore dans des bâtis qui sont à la limite, voire quasi insalubre. Donc on est là aussi pour mettre en place des politiques publiques qui tendent à résorber cet habitat-là. Voilà. Toujours là aussi, on a mis en place l'opération programmée d'amélioration de l'habitat, elle a une petite contrainte, c'est qu'elle s'adresse à des personnes aux revenus modestes. Donc ça veut dire que les gens qui ont des revenus un petit peu supérieurs ne peuvent pas y prétendre. Donc pour pallier à cette contrainte-là, on a mis en place un autre service qui est entièrement gratuit, qui s'appelle la plateforme Rénov' Habitat, où on va amener, si vous voulez, une expertise et une aide à la décision de la personne qui désire réhabiliter son bâtiment, entièrement gratuit. Voilà, après, on a été aussi, j'ai oublié quand même, on a été territoire à énergie positive pour une croissance verte, donc on avait répondu à un appel d'offres État. Et ça nous a permis d'aller chercher une enveloppe de 2 millions d'euros qu'on a redistribué sur le territoire, là aussi sur des biens publics, pour faire venir amener des corrections sur les bâtiments qui étaient énergivores, voire créer des nouveaux bâtiments, l'aide à de nouveaux bâtiments, je pense à l'école de Saint-Antonin, etc., etc. Donc là, c'était aussi 2 millions d'euros qui ont été versés sur le territoire. Vous savez qu'on travaille aussi sur un programme alimentaire de territoire. Là, je change. Donc, programme alimentaire de territoire. On a un fil conducteur sur notre territoire, c'est l'agriculture. L'agriculture est partout présente à différents niveaux, parce que l'agriculture, ici, sur notre coin, en Quercy-Rouergue, c'est pas la même que celle à Albias ou mais si vous voulez, ces différences-là sont une force aussi pour notre territoire. Et c'est pour ça qu'on essaye de mettre en place des programmes qui fortifient la production agricole locale, fortifient ou développent des circuits de proximité. Enfin, bref, voilà. Alors, j'ai pas dit qu'il fallait tout faire à l'échelle de notre petit territoire PETR, mais le plus possible. Voilà. Pourquoi ? Parce que là aussi, on touche à un autre thème, qui est le thème de la mobilité. Mobilité des personnes et mobilité des marchandises. Donc, moins on aura de mobilité à mettre en place et à exercer, mieux on se portera. Enfin, on aura moins de dépenses à effectuer, moins d'énergie, etc., etc. Et donc, ça fortifie l'action du producteur, l'action du revendeur et du consommateur final. Pour illustrer cela, une des politiques à destination de la sauvegarde ou du développement de l'agriculture, c'est le programme, l'aide qu'on a apporté avec d'autres structures, évidemment, pour les vins du coteau du Quercy. Tout le monde aime le vin du coteau du Quercy. Eh bien, on espère que par notre contribution, on apportera une valeur supplémentaire à cette production-là, qu'elle sera reconnue au-delà de nos frontières, parce que sinon, on n'aurait trop pas à boire, nous. Mais voilà, ça, c'est aussi une action concrète. Le fait de développer, entre guillemets, des marques locales. Tout ça contribue, me semble-t-il, à faire reconnaître nos productions locales et à les développer. Enfin, il faut aussi dire ce que fait le PETR, c'est-à-dire que c'est Il est en charge de contractualisation de programmes. Donc, par exemple, le contrat de ruralité, qui est un programme, une politique d'État, dont nous sommes signataires. Les contrats d'Occitanie. Un autre programme, qui est le programme Leader. Donc, programme Leader, un programme très compliqué, certes, mais qui, quand même, au cours de cette mandature, aura permis... Enfin, je l'espère, parce qu'on n'a pas tout à fait terminé, mais d'injecter 2 600 000 euros sur le territoire. C'est vrai que c'est un problème compliqué, mais en contrepartie, il y a aussi de l'argent qui arrive sur notre territoire venant de l'Europe.
Un programme qui propose d'aider les idées innovantes sur le territoire.
C'est ça, c'est tout à fait. C'est pour c'est une forme de laboratoire, innover, travailler avec d'autres territoires au niveau local, national ou européen. Voilà, c'est faire travailler un petit peu les méninges de façon à traduire des idées en réalité économique, sociale, culturelle ou autre. Voilà, c'est vraiment l'idée du leader. Je pense aussi au PLIE, qui est porté par le PETR, c'est le plan
local d'insertion pour
l'emploi. Le plan local d'insertion, voilà, je vais y arriver. Donc là aussi, en collaboration avec le conseil départemental, on permet à un certain nombre de personnes qui sont un petit peu ou carrément éloignées de l'emploi, de retrouver une forme d'activité qui les réintègre ou les réinsère un petit peu dans le circuit citoyen, dans le circuit... On essaie de travailler avec les communautés de communes sur le tourisme, sachant qu'on a là aussi des différences en fonction des 3 communautés de communes. C'est vu que la communauté de communes Quercy-Rouergue et Gorges-Aveyron est mieux placée, je dirais, en termes de tourisme. Alors, on travaille pas, on ne fait pas ce que font les communautés de communes, parce que c'est elles qui ont la compétence. Mais par contre, on travaille à coordonner ces politiques et à avoir une forme de développement et surtout on communique en fait ce qui se fait sur le territoire. On a une coordination sur les communications. Voilà. Je voudrais surtout pas oublier l'inventaire du patrimoine bâti parce que c'est un service qui nous a contribué et contribue et j'espère contribuera encore à s'apercevoir des valeurs qui sont sur notre territoire, enfin des valeurs, de la valeur architecturale, historique, patrimoniale, du petit patrimoine bâti. C'est quelque chose qui, au début, n'avait peut-être pas été très bien perçu dans sa finalité et qui, en fait, on s'aperçoit maintenant avec le recul qu'il y a des applications tout à fait positives qui s'insèrent dans des documents d'urbanisme, qui vont s'insérer dans d'autres cadres. Par exemple, là, on va travailler sur plusieurs villages de notre territoire et qui vont rentrer dans le cadre des SPR, sites patrimoniaux remarquables. Donc voilà, le service d'inventaire peut amener là aussi sa pierre, ou l'a déjà amené sa pierre. Donc voilà, c'est un tout. C'est un tout qui fait que voilà, ça entend à valoriser notre territoire par une meilleure connaissance. Et voilà, le service d'inventaire amène une pierre très, très efficace. Voilà, je ne sais pas si j'ai fait le tour. Peut-être la dernière chose que je voudrais dire, c'est que ce qui est très compliqué, c'est de bien communiquer sur les actions qu'on fait. Donc on a travaillé là-dessus et pour la prochaine mandature, il y a des actions, des outils qui ont été mis en place.
C'est de un façon nouveau site à ce internet que, tout à fait remarquable.
Voilà, et on a un de ces outils, c'est la réfection, la refonte de fond en comble, je veux dire, du site internet. Si vous êtes, alors il est déjà en ligne. Si vous êtes allé le voir, je trouve personnellement, enfin je suis, mais je peux pas dire le contraire, même s'il était bien, franchement, honnêtement, il est très bien fait.
Franchement, il est très bien fait.
Voilà, il est simple, il est convivial. Il faut amener un surplus de lisibilité et de visibilité. Donc c'est l'objet, c'est un des gros défis, je pense, à l'avenir pour faire comprendre l'utilité. Alors je crois, j'en suis convaincu du PETR. Voilà. Sans pour cela travailler sur les plates-bandes des communautés de communes. On est complémentaires. On est un outil au service d'eux. Voilà. Donc il ne faut surtout pas faire de l'opposition de genre ou de politique entre les communes, les communautés de communes et le PETR. On est tous dans la même sphère et on travaille tous pour notre territoire à des niveaux différents. Mais on a besoin de cette complémentarité. Je sais que ça peut être très compliqué à lire. On est tous à nos niveaux, on est en capacité de mener les choses qui nous concernent.
Christian Maffre, vous êtes le président du PETR Médicarcy. Vous êtes aussi le maire de Caylus. C'est pour ça que vous pouvez être président du PETR. Vous ne vous représentez pas aux élections. Vous ne serez donc pas représentable en tant que président du PETR. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ?
Oui, vous avez tout à fait raison. Pour être élu au PETR et donc être éventuellement président ou vice-président, il faut être élu au niveau communal et au niveau intercommunal. Donc, comme je ne me représente pas au niveau communal, je ne serai forcément pas élu au niveau intercommunal et donc encore moins au PETR. Me souhaiter rien. Moi, voilà, ça fait 19 ans que je travaille au service de mes concitoyens, caylusiens dans un premier temps, et ensuite j'ai agrandi la sphère, si vous voulez. Je l'ai toujours fait avec. Avec le plus grand sérieux, avec un esprit, pas un esprit de clocher, c'est-à-dire un esprit global. Je me bats aussi bien pour quelqu'un de Léo Jacques que de Castanet. Voilà, c'est comme ça. J'ai souvent, j'ai appris aussi, en 18 ou 19 ans, on apprend de la sagesse. Donc voilà, après, quand on est élu, il faut savoir une chose, c'est qu'on ne contente jamais tout le monde. Moi, je dis souvent, 49% on a perdu, à 51% on a gagné. Mais il faut que ces 51%, même si on gagne, ils servent à quelque chose, ils servent au plus grand nombre. Voilà, moi j'ai toujours été, en tant qu'élu, que ce soit communal, intercommunal ou autre, j'ai toujours été pour rendre service aux gens, faire que, tout en respectant bien sûr la réglementation, même si des fois elle n'est pas forcément bien adapté à nos territoires ruraux. Il faut quand même décocher quelques flèches de temps en temps. Mais voilà, on n'est pas là pour juger tout le temps. On est là pour amener des actions qui aident nos concitoyens, qui nous aident à continuer à vivre sur un territoire ou sur des territoires ruraux. Voilà, bon, je pense que mes homologues qui travaillent dans le milieu urbain, ils ont un raisonnement. Ils n'ont pas les mêmes mots, mais ils ont le même raisonnement. Donc en fait, c'est ça. On est au service des autres. Il faut le faire tant qu'on a la niaque, tant qu'on a la foi, comme on dit. Après, au bout d'un certain temps, un petit peu de lassitude qui vient se greffer. Hein, et puis l'âge aidant, voilà, je pense qu'il faut que je laisse la place à des personnes qui viendront se remotiver et qui viendront motiver une dynamique territoriale. Ce que je voulais quand même dire, et j'allais l'oublier, c'est que tout ce qui a été fait au cours de ces 6 années, l'a été fait grâce aux élus, bien sûr. Et là, je voudrais leur rendre vraiment hommage parce que, contrairement à ce qu'on peut voir des fois au niveau local, où on a des gens qui ont la croyance, la suffisance, le savoir intense et absolu, et c'est à partir de là, ça génère forcément des fois des petits conflits, au niveau du PETR, on a fait abstraction de toute forme de politique discriminatoire ou politicienne pour se focaliser sur des choses qui soient bonnes pour le territoire. Et toutes les décisions qui ont été prises au cours de ces 6 années l'ont été. Bon, alors, je ne dis pas que ça a été à l'unanimité chaque fois, mais en tout cas, elles n'ont jamais généré de conflits. Ça a été fait dans un très bon esprit. Il y avait des sensibilités différentes qui ont composé les différents bureaux, les différentes strates, mais ça s'est toujours fait dans un très bon esprit. Et là, franchement, il faut le souligner, et c'est ce qui a fait la force et ce qui fait la force du PETR. Je voudrais aussi remercier, parce que sans eux, c'est pas possible, les services techniques de la ressource humaine, comme on dit, mais avec un joli R et un grand H du PETR, parce que c'est aussi par leur implication que et leur écoute, leur veille, que tout ça a été possible. Il faut croire à ce qu'on fait à un moment donné, et bien eux, ils y croient, et ça, il faut qu'ils en soient remerciés publiquement et simplement, certes, mais il faut le dire. Donc moi qui ne sais pas toujours remercier, je pense qu'il faut le dire, voilà, parce qu'ils le méritent.
Je suis d'accord, merci à eux et merci à vous.
Merci à toi.
Et une prochaine, mais alors je ne saurais pas dire quand là. Merci Christian Maffre.
Le MAG du Pays Midi Quercy, c'est tous les lundis à midi, rediffusion à 17h et le samedi à 18h. Et en podcast sur cfmradio.fr.